Lorsqu'on est là, évidemment, il y a beaucoup de piétons qui se promènent pour aller voir comme spectateurs, pour aller voir les joueurs. Un jour, il y en a un qui est tombé et il s'est fait mal. Alors, à Augusta National, on voulait évidemment mettre court à toute poursuite possible parce qu'il y avait beaucoup plu et l'endroit où marcher était glissant. Alors, ils ont mis le même système de perception d'eau sous tous les trottoirs.
Incroyable.
Comme ça, ben, c'est toujours sec. Il y a beau tomber un déluge.
Mais qu'est-ce que ça me dit, ça? C'est que, parce que tu regardes Augusta, là, c'est pas avec un paysage de montagne extraordinaire, là. C'est un paysage de Tim Hortons assorti, là. Tu sais, Tim Hortons, puis concessionnaire automobile. Puis, c'est plutôt plat, hein. Il n'y a pas d'avantage naturel extraordinaire. L'avantage a été fait de main d'homme. Et c'est un jardin. Donc, un jardin dans lequel on a beaucoup investi. Tu le disais, 10 millions d'aménagements juste en une année. Dollars d'aménagement, ça veut dire que avec les années,
évidemment, oui.
Et tu parlais des systèmes de rétention d'eau, etc. Mais ça veut dire que la beauté, ça peut payer. Ça veut dire que si une ville fait par exemple une place publique ou un jardin extraordinaire avec des maisons autour de ce jardin-là, ça va être payant.
Tu te rappelles, je sors de mon sujet un peu, mais même l'exemple de Lorraine sur la rive nord de Montréal. Lorraine a été vraiment avant-gardiste d'enfouir ses fils électriques là, dans les années 70, de pas faire des rues rectilignes, de faire des passages entre les maisons pour communiquer entre les différents quartiers. Et évidemment, tout le monde s'est précipité à cet endroit. Et Lorraine, c'est un endroit qu'on entend peu parler, mais qui fait bon vivre.
Ben oui. Ville-Mont-Royal aussi, ben les petites rues étroites, des vieux arbres. Un des quartiers où il y a le plus beau couvert arboricole au Canada, c'est à Winnipeg. Et le couvert arboricole est extraordinaire. Ce sont des arbres centenaires. Et au pied des arbres, ce sont des véritables jardins que les citoyens entretiennent. C'est un des plus beaux quartiers résidentiels dans une des villes qui est les moins jolies du Canada. Mais ce quartier-là, en tout cas...
La beauté. Ben oui. Rapidement, je veux te parler des Jeux de Paris. Là, on a entendu dans les nouvelles que Emmanuel Macron a dit que si c'était trop dangereux de faire un défilé des athlètes sur la Seine, ben on va aller soit au Trocadéro ou soit au Stade de France. Là, finalement, on commence à évaluer.
Oh!
On dit toujours qu'il n'y a pas de plan B, mais on dit aussi, si je reprends ces mots au président, il dit il n'y a pas de naïveté, mais une grande lucidité. Alors, on peut pas lui en vouloir.
Le Trocadéro, puis quoi?
Le Stade de France. Le Stade de France, qui est un immense stade de soccer.
Ouais, le Stade de France, oui.
Mais alors, c'est absolument...
C'est dans Saint-Denis, ça fait que...
Habituellement, on fait les cérémonies d'ouverture et de fermeture. C'est juste que c'est le climat mondial là, qui fait en sorte que ça devient plus compliqué. Rapidement, les riverains, maintenant, dans quelques semaines, vont devoir avoir un code QR. Tu sais, ces fameux codes là, qu'on avait pendant la pandémie pour pouvoir montrer patte blanche parce qu'il y a des investigations policières sur les citoyens qui vont se promener à proximité. Ah oui. Des différents sites.
Mais ils pourront le coller sur leur sacoche le Louis Vuitton.
L'hébergement à Paris, surprise. On croyait avoir une frénésie sur les réservations. C'est l'inverse en ce moment. C'est des hôtels, ça fait un mois et demi qu'on n'a pas eu aucune réservation. On avait multiplié le prix de location par 6 pour différentes chambres d'hôtel. On leur avait dit à ces différents hôteliers, vous devez garder 80% de vos chambres pour le Comité international olympique. Ces derniers ont annulé une grande partie de leurs chambres sans réservation. Et les hôteliers ont de la misère à relouer maintenant par la suite. Ils commencent à trouver ça beaucoup moins drôle. Et une des raisons, on dit, on a tellement fait peur au niveau de la circulation parisienne que personne ne veut venir ici. Pour avoir une idée, si jamais vous voulez aller à Paris pendant les Jeux olympiques, pour un 50 mètres carrés, donc 550 pieds carrés, ça coûte 3 800 $ par jour pendant les Jeux olympiques. Alors, pensez-y.
Ça, c'est dans la Tour 5, à la station de métro machin, ou c'est...
C'est dans la périphérie de Paris. Alors, dans le pourtour de Paris, maintenant, évidemment, ça peut aller assez loin, mais quand on parle dans disons,
le périphérique, là, le fameux.
Ouais. Tout le monde veut mettre la main
là-dessus. Bon, c'est pas tous des quartiers de luxe, hein, dans ces cas, sur le périmètre de Paris, il y a aussi des tours bien ordinaires.
Oui, alors, ceux qui pensaient faire fortune maintenant, peut-être que vous avez déjà
vu, c'est rétabli un peu.
Ça risque d'être un petit peu plus difficile. Des jeux colo qui titraient la presse ce matin, ben, on dit que la construction, au moins à Paris, il n'y a pas trop de choses de nouvelles qui est construite, mais en général, les Jeux olympiques, avec tous les déplacements mondiaux que ça représente, il faudrait peut-être repenser au système. Et plusieurs voix maintenant s'élèvent en disant peut-être qu'on pourrait mettre ça un petit peu à travers le monde. La boxe d'un côté où il y a déjà des stades de boxe, ça serait plus facile pour l'hébergement, la sécurité.
Une série de coupes du monde qui seraient rassemblées sous un parapluie.
Ouais, c'est toujours ça un peu le dilemme. On dit est-ce qu'on veut que ça ressemble à des coupes du monde ou on veut que ça ressemble à tout le monde ensemble? Mais tout le monde ensemble, ça a un prix. Et maintenant, ceux qui vont être capables de le payer vont devenir de plus en plus rares. Ça risque d'être des pays totalitaires ou des pays du Moyen-Orient. Alors, à suivre.
Bien, merci beaucoup, Jean-Luc.
Salut, Luc.
On s'en va à la pause. Au retour, on parle à Sami Aoun, on parle de l'Iran.
tout savoir ce qui se passe dans notre région, ne manquez pas à la chronique culturelle avec Hugo Étier, du lundi au vendredi à 9h35 et une formule plus détaillée les jeudis à 12h15 sur les ondes de CFX FM 93.
Le beau temps approche à grands pas. Et chez Batterie Expert, nous sommes prêts à vous faire vivre une saison inoubliable. Avec une vaste sélection de vélos, quadriporteurs et autres petits véhicules électriques, nous vous invitons à découvrir l'aventure qui vous attend. Nos experts sont là pour prendre soin de vos besoins en entretien et réparation sur place. Pour l'entretien de votre terrain, nous vous proposons les produits Ego, tondeuse, coupe herbe, souffleur à feuilles et autres accessoires. De plus, ne manquez pas notre collection d'accessoires solaires. Batterie Expert, 145 montées industrielles et commerciales. Rimouski.
Le centre de location Locaflex, une entreprise familiale d'ici, vous propose une gamme complète d'outils et d'équipements. Vous cherchez l'outil idéal pour vos travaux de paysagement, de rénovation ou de construction? Pensez local, pensez Locaflex. Nous avons un large éventail d'équipements. Remorques, excavatrices, nacelles, génératrices, ventilation et bien plus encore. Une solution efficace, économique et écologique. Locaflex, 194 avenue Léonidas, Rimouski. 88-722-1212.
Sortez les vélos de vos cabanons. Le plus vieux vélo bazar au Québec s'en vient. Des vélos pour toutes les bourses. Des trésors à découvrir. Au pavillon polyvalent 313 avenue de la cathédrale Rimouski. Samedi 4 mai de 10 à 15 heures. La journée des vendeurs. Apportez vos vélos fonctionnels à vendre ou à donner. Dimanche 5 mai. La journée des acheteurs. 9 heures. Distribution des billets de priorité. 10 heures. Entrée des détenteurs de billets de priorité. 11 heures. Ouverture pour tous. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur la page Facebook de Rimouski Ville Cyclable.
C'est le sprint Santé Minceur chez Santé 2000 Le Club. Profitez des promotions anti-inflation allant de 15 à 50% pour un sprint rapide et efficace. Optez pour un mois tout inclus à deux entraînements par semaine avec entraîneur. Des évaluations corporelles, entraînement illimité en salle, un cours de groupe au choix et une consultation en nutrition. Découvrez l'endermologie pour seulement $9.95 et des rabais de 30 à 50% sur les forfaits. Bienvenue au club. Inscription santé2000leclub.com. Certaines conditions s'appliquent.
Découvrez un mélange de luxe et d'aventure avec le Kia Sorento 2024 redessiné. Écran panoramique de 12,3 pouces jusqu'à 7 passagers sur 3 rangées de sièges, capacité de remorquage jusqu'à 4000 livres. Essayez le Kia Sorento 2024 chez Formule Kia à Rimouski.
Ce n'est pas tout de dénoncer. Il faut agir sans réserve. Jusqu'à 15h, vous écoutez Sans Réserve. Sans Réserve. Avec Luc Ferrandez.
Alors, nous avons été tous surpris par l'ampleur de l'attaque. On savait que les Iraniens voulaient se venger de la destruction de leur ambassade en Syrie, mais on pensait pas qu'ils attaqueraient avec 350 missiles de toute taille, missiles, mais drones aussi. Pour en parler, Sami Aoun est professeur émérite de sciences politiques à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Monsieur Aoun.
Bonjour.
Alors, M. Aoun, évidemment, la question est sur toutes les lèvres. Est-ce que l'Iran, lorsqu'elle a attaqué, s'attendait à une réplique d'Israël? Et si oui, que pensez-vous que sera cette réplique?
Certainement, on s'attendait, mais sauf que il faut voir maintenant que cette attaque iranienne a été déjouée quand même grandement. Il n'y a pas de victimes israéliennes, il n'y a pas des villes et des centres urbains qui ont été touchés. Ce qui a été touché, c'est une base aérienne d'où ont décollé les avions F-35 pour justement détruire le consulat iranien à Damas et neutraliser les hauts officiers iraniens. Alors à ce moment, la réplique israélienne devrait être à peu près de la même façon, c'est-à-dire tout d'abord avoir un feu vert des États-Unis ou quand même une certaine approbation, parce que déjà Israël est endetté à l'égard de l'administration Biden durant la protection. Les Américains sont engagés à défendre Israël, mais n'ont pas nécessairement à l'accompagner dans une attaque contre le sol iranien et contre des cibles iraniennes d'une façon frontale. Alors à ce moment, les Israéliens devraient mijoter, ils sont en train de le faire je crois, à essayer d'avoir des priorités, des options qui pourraient nuire à l'Iran sans nécessairement déclencher un embrasement régional ou entre les deux puissances. Alors voilà, c'est la question qui est maintenant à observer.
Monsieur Aoun, évidemment, vous dites qu'il n'y a pas eu de victimes, puis bien sûr, on l'a tous constaté, il y en a, comme d'ailleurs Blinken, le secrétaire d'État américain aux affaires extérieures, qui a dit Israël devrait considérer ça comme une victoire, ils ont eu leur victoire, c'est suffisant, ils n'ont pas besoin de faire plus. J'aimerais vous amener sur une hypothèse que je me suis faite comme ça, peut-être que d'autres l'ont faite, je ne l'ai pas lu. C'est le coût d'une attaque et le coût de la défense. En attaquant avec des drones Shahed à 20 000 $ le morceau, et en se faisant descendre ces drones-là avec des missiles Patriot à 4 millions, je pense que ça a coûté à l'Israël, selon mes calculs, là, beaucoup plus qu'un milliard de dollars, plus proche de 2 milliards de dollars, alors que ça a coûté à l'Iran environ 7 millions de dollars. Est-ce que ça se peut que la stratégie de l'Iran, ça soit d'épuiser les ressources israéliennes, de les fatiguer avec notamment des attaques directes, mais aussi avec l'Hezbollah, puis les outils, etc.?
Oui, c'est très probable, certainement. Le coût pour les Américains, les Israéliens et les Britanniques et la France a été énorme à comparer avec les coûts que subit l'Iran. Mais aussi, il faut saisir que la puissance israélienne, c'est une puissance productrice d'armement, ou aussi c'est une puissance assez riche à titre comparatif, au moins. Alors, mais l'autre point que vous avez bien raison de le souligner, c'est que l'Iran a une approche déstabilisatrice contre Israël, qui est considérée dans l'idéologie iranienne comme une masse cancéreuse, comme un État qui devrait être effondré ou parce qu'il est arbitraire, ainsi de suite. Alors, sur ce point, les Iraniens ont plus à longue haleine une façon de déstabiliser les Israéliens. Alors, cela, vous avez bien raison. L'autre point, pour le calcul, généralement, les Israéliens sont dans un mood ou un climat qu'ils livrent une guerre existentielle après le 7 octobre. Mais c'est vrai que ça pèse beaucoup sur la décision, mais encore, il y a un clivage en Israël, il faut bien le remarquer, c'est celui entre les ultra-conservateurs sionistes religieux qui sont plutôt idéologues, plutôt dogmatiques, et il y a l'aile centre-droite ou aussi de la gauche israélienne qui est plus pragmatique. Et le débat se fait dans le cabinet de guerre entre ces deux camps à peu près. Pour les ultra-conservateurs, il faut répondre d'une façon écrasante contre l'Iran. Les autres disent on n'a pas besoin d'aller si loin. Contentons-nous maintenant de cette victoire que même l'administration Biden est en train de les convaincre. Vous avez bien réussi. C'est pas nécessaire d'aller un peu plus loin, au moins pour le moment.
Est-ce que vous pensez qu'ils vont écouter? Parce que quand on lit les déclarations de Gvir ou de Gallant, par exemple, on a l'impression qu'ils sont hors contrôle, qu'ils acceptent aucune censure de la part des États-Unis.
Oui, vous avez raison sur cette impression, mais après ce qui est arrivé dans les dernières journées, pratiquement Israël se sent endetté. Alors, en ce sens, vers les États-Unis ou aussi jusqu'au le bloc occidental. Et ils ont quand même réussi à ressouder leur solidarité avec le bloc occidental, aussi au niveau de l'image qui a été ternie, surtout pour M. Netanyahou, avec l'invasion de Gaza et les dommages vraiment horribles pour les humains. Alors pratiquement maintenant, il devrait aussi calmer le jeu. Et calmer le jeu en ce sens, rester dans la case de victimes relativement, je parle. Oui. Alors sur ce point, peut-être ils vont tempérer aussi leur réplique. Mais en tout cas, il faut voir aussi que les Israéliens, certainement, c'est une puissance redoutable, personne n'en doute. Mais pour l'instant, attaquer l'Iran, ils ont besoin, si jamais il y a une réplique iranienne, de l'aide des Américains, certains et sûrs.
Ouais. Justement, parlons de ça. Là, l'Iran, pour la première fois de son histoire récente, depuis 1979, là où de la révolution iranienne, ils ont attaqué directement Israël. C'était la première fois. C'est un changement de stratégie. Est-ce que c'est c'est une fois, ils ont dit, c'est une réponse à une attaque directe, on va répondre directement en jugeant, par exemple, que l'ambassade de Damas faisait partie du territoire iranien. Ce qui est faux, mais enfin, c'est leur logique. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une nouvelle façon, une nouvelle guerre ouverte entre les deux qui remplace la guerre par procuration qui se faisait depuis des années où les Iraniens se servaient des groupes terroristes pour attaquer Israël?
Oui, vous avez bien raison de dire que c'est un tournant. Il faut voir s'il a des lendemains. Probablement oui, mais aussi ça vient un peu s'inscrit dans une logique israélienne bien claire depuis à peu près le 7 octobre dernier, que on